Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles. Nous sommes en direct de 19h à 20h en ce mercredi 15 avril 2026 avec Didou Mignot. Qu'est-ce que c'est que La Forêt des Possibles avant de t'introduire Didou ? La Forêt des Possibles, c'est une émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices des transitions écologiques, sociales et solidaires qui, chaque semaine, viennent présenter leurs projets sur la ville de Marseille. Il y a quelques années, l'idée, c'est de se poser, de se dire si la société va dans le mur, où est-ce qu'on veut aller ? À quoi ça ressemble une société qui soit souhaitable ? Et donc, La Forêt des Possibles a proposé un imaginaire qui souhaite à embarquer autour de l'allégorie de l'arbre et de la forêt qui, en Méditerranée, rassemble plus qu'elle ne divise, des cèdres du Liban jusqu'aux oliviers de Sicile. Et une fois que nous avions un origine, un imaginaire, une trajectoire, un horizon avec ce podcast, mais aussi un wiki qui s'appelle L'Arbre des Imaginaires, que vous pouvez retrouver sur Internet. Nous avons aussi des outils d'accompagnement pour que chacun, chacune puisse trouver sa juste place. Oui, sa place. À ma place. C'est bien tout ce dont nous allons parler ce soir avec toi, Didou. Moi, ça me touche personnellement parce que c'est ce que nous proposons dans les ateliers où on utilise l'allégorie de l'arbre pour s'interroger sur ses racines, sur son tronc, de quoi on a vraiment besoin, l'écorce dont on se protège, etc. Mais l'objectif ce soir n'est pas de parler de l'atelier, c'est plus de parler de ton spectacle. Mais forcément que quand tu m'en as parlé pour la première fois, eh bien, je ne pouvais pas rester insensible puisque c'est une question qui me taraude depuis longtemps que celle d'être à ma place et je pense que je suis loin d'être le seul. Je me présente, je suis Marin Maufray. En régie, nous avons Elissa Guyon. Bonsoir Elissa.
Bonsoir.
Nous avons Jérôme qui nous prend en photo dans ce studio. Et donc Didou, eh bien, je vais t'inviter à te présenter et à chercher ensemble un peu cette question de la place. Nous, ce qu'on aime bien ici, c'est parler du moi au nous et du nous au tout. Se dire que pour être vraiment à sa place, c'est aussi être en résonance avec soi-même, avec les autres et avec le monde. Et donc nous allons rentrer dans ce cheminement que tu nous proposes avec des spectacles, avec des chansons. Et dans un tout premier temps, bah, juste savoir qui es-tu.
Ben bonsoir Marin, bonsoir tout le monde. Moi je suis Didou Mignot, j'ai le sentiment d'avoir eu 1000 vies déjà et je pense que celle que j'ai aujourd'hui n'est pas la dernière, même si elle est, je suis à ma place dans cette vie-là, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les autres vies. Je suis comédienne, je suis chanteuse, je suis professeure d'art oratoire et d'expression scénique. En gros, je travaille la prise de parole sous toutes ses formes.
Merci. Et donc, prise de parole sous toutes ses formes. Et c'est pour ça que je me suis un peu jeté là à l'instant dans le fait de faire une impro totale pour cette introduction plutôt que d'en lire une qui aurait été plus facile, mais finalement aussi peut-être un peu moins challengeante. Mais j'ai l'impression que tu es appelé à peut-être sortir des chemins tout tracés et de vouloir aller expérimenter des chemins de traverse.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que la ligne droite, c'est joli, mais ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, une vie en ligne droite, moi, j'en connais aucune. La mienne est loin d'être en ligne droite. Et pourtant, je pense que sortir des chemins battus, des sentiers battus, pardon, c'est pas toujours la chose la plus simple à faire. Et c'est pas toujours celle qui t'emmène là où t'as envie d'aller. Mais en même temps, les chemins de terre battue, de traverse, c'est les endroits qui te font découvrir des choses que tu n'aurais jamais découvert si tu étais resté sur un droit chemin. Donc, je sais pas si mon chemin est tordu ou est-ce qu'il fallait passer par ces étapes pour être à ma place. Mais en tout cas, ils ont été là, ils sont là, ils m'ont servi. J'ai appris plein de choses. J'en ai laissé d'autres de côté qui m'ont pas servi à grand chose. Mais en tout cas, tout ce qui m'a servi me permet d'être là aujourd'hui.
Quand on faisait l'émission, tu me disais que plus jeune, tu souhaitais être prof en fac.
Ouais.
Là, pour le coup, le chemin aurait été... plus, comment dire, pas monotone, mais en tout cas tracé avec des étapes, et puis parfois des rites même carrément, de dire on fait la thèse, et puis ensuite on la présente.
Ah mais j'ai fait ça, hein. Ah oui, je suis allée jusqu'en thèse, alors j'ai arrêté avant, mais je suis allée jusqu'au doctorat, et puis après je me suis dit mais non, c'est pas ce que j'ai envie de faire, et à 27 ans, pourtant c'est jeune 27 ans, mais à 27 ans je me suis dit non mais t'es trop vieille pour reprendre des études, parce que j'avais envie de faire de l'événementiel, j'avais envie de faire mille choses, il y avait mille choses qui me plaisaient, et je me suis lancée en tant que formatrice, j'étais en Angleterre à cette époque-là, et j'ai adoré le challenge de former en anglais, alors que moi-même j'étais française et que c'était pas ma langue natale. Mais tu vois, déjà à l'époque, formatrice, bah, j'étais déjà devant un public que tu le veuilles ou non. J'étais très à ma place quand j'ai fait ça. Ça a duré le temps que ça a duré, mais oui, prof en fac, figure-toi que je disais ça depuis que j'étais toute petite. Mais mon chemin de vie, il a toujours été de transmettre. Voilà, que ce soit parce que je suis sur scène et je transmets quelque chose à quelqu'un, de par ma vie, de par ce que j'ai à dire, de par l'étincelle qui peut être dans la vie des gens en m'écoutant. Ça fait un peu, oh là, je me la pète, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que mon chemin de vie, il peut être l'étincelle de quelqu'un qui va se dire, ah bah tiens, ce qu'elle a fait, c'est super intéressant, pourquoi pas moi ? Si elle y arrive, pourquoi pas moi ? Donc si tu veux, ça rejoint la formation, ça rejoint être prof en fac, ça rejoint transmettre quelque chose à quelqu'un, et puis évidemment, recevoir en retour.
Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, quand on a préparé l'émission, tu disais que tu n'avais pas envie de donner des leçons, et c'était pas que ton spectacle, et on va vraiment rentrer un peu plus dedans, c'était pas dans le but de finalement d'être dans une approche descendante. Donc comment tu le vis, l'enjeu de la transmission?
L'enjeu de la transmission, c'est juste d'être moi-même, sincère, et puis ça touche, et c'est tant mieux. Ça touche pas, c'est que ça doit pas toucher. Je me pose pas toutes ces questions, en fait, si tu veux, en tant que comédienne, si tu veux, en tant que prof d'art oratoire, évidemment que j'ai des choses à transmettre, et j'ai des choses à dire théoriques, mais après la pratique, c'est jamais moi qui le fais, forcément, c'est les personnes avec qui je travaille. Donc moi, j'estime être un guide. Un guide qui va te dire, ok, ça, qu'est-ce que t'en penses, comment ça résonne chez toi, et j'interroge toujours l'autre sur ce qu'il ressent, et moi, mon avis, en fait, on s'en fiche totalement. Et quand je fais des formations, par exemple, je vais dire, mais moi, ne me demandez pas mon avis, parce que c'est un avis humain, d'être humain, et il vaut ce qu'il vaut, mais vous en pensez quoi? Et c'est là où je pense que la formation, elle a tout un intérêt, c'est que c'est pas moi qui dis ce qu'il faut faire, c'est eux qui font et qui débriefent de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont ressenti. Mais c'est ça la prise de parole, tu vois, c'est que du ressenti en fait. Et pour la comédienne, c'est la même chose, ma pièce à ma place, elle donne pas de leçon, elle est juste, voilà, moi je vous étale sur scène ma vie, aussi impudique soit-elle, et vous en faites ce que vous voulez. Ça vous touche, tant mieux, vous en ressortez deux, trois trucs super, vous n'en ressortez rien, vous avez juste ri avec moi pendant une heure, mais je trouve ça magnifique, tu vois. Je me dis pas, ah, vous n'avez rien ressenti. Pourtant, c'était pas pour ça que j'étais là. Non, en fait, c'est très personnel, le ressenti. Donc moi, c'est pour ça que je te dis que j'ai pas de leçon. Tu me verras jamais écrire un livre avec une méthode. Mais je fuis ça, j'ai pas de méthode, je me débrouille comme je peux. Ça, s'il y a une méthode, c'est celle-là, c'est se débrouiller comme je peux.
Et tu me disais donc que c'était vraiment un spectacle où tu parlais de toi, et qu'en fonction de ce que tu as vécu, après ça va venir résonner à certains endroits chez les uns et chez les autres. Et tu me parlais du fait que professionnellement tu avais réussi, et tu avais été à deux doigts du succès, c'est une note que j'ai notée là.
Oui.
Et qu'à un moment tu t'es dit, si jamais là je me lance pas sur ce qui me tient vraiment à cœur, une sorte d'appel que tu m'as partagé, que tu as eu en janvier là, de se dire vraiment la scène, il faut y aller. Voilà, comment tu t'as vécu, c'est une vie professionnelle qui finalement t'appelle à vouloir te lancer sans filet.
Si tu veux, j'ai l'impression d'avoir fait tout, puisque tu parlais de sentier battu, j'ai l'impression d'avoir pris tous les détours possibles et inimaginables, en tout cas de ce que j'aimais faire, pour ne pas me lancer réellement dans l'artistique, qui est ce qui me plaît le plus depuis que je suis toute petite, mais que j'ai évité. Comme tu mets pas ta main dans le feu ou tu te brûles très vite, j'ai évité tout ça pour X et Y raisons. Et puis le constat a été fait en janvier de, en fait, plus rien ne me plaît à part être sur scène. Qu'est-ce que tu fais de ça? À part te lancer, enfin, moi je me suis dit, si je me lance pas, j'ai regretté toute ma vie. Et c'est pas que je veux pas, je ne veux plus rien faire d'autre, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Alors oui, la prise de parole quand je forme, ça m'intéresse encore, il y a plein de choses si tu veux. Mais je me suis dit, c'est encore une voie secondaire. Et si je veux vraiment aller là où j'ai envie d'aller, là où mon cœur, mon âme m'appelle, en fait, il y a que de l'artistique, il y a être sur scène, créer, jouer, chanter, accompagner les gens, mais m'accompagner surtout moi, aller là où j'ai envie d'aller, en fait.
Et alors pourquoi à ma place, du coup ?
La pièce de théâtre, tu veux dire ?
Ouais.
Parce que il y a 2-3 ans, j'ai lancé mon projet musical qui s'appelle Rocky Payette. Et pareil, comme quand j'ai été comédienne il y a 12 ans, je me suis lancée avec force et passion, avec enthousiasme. et j'ai pas réussi comme je voulais réussir. Je pense qu'il y avait des bribes de succès, mais que je n'ai pas su apercevoir, que je n'ai pas su saisir. Bref, j'étais limite au bord du burn-out. Et puis je me suis dit, ça doit être en avril, un peu au début d'année la dernière, de début 2025, je me suis dit, ok, mais qui va venir voir Rocky Payette? Qui peut être intéressé par ce que je fais? Or, je sais d'expérience, puisque ça fait des années que je galère, si je puis dire. Nous sommes dans la bonne radio, la bonne radio, que je galère dans un métier qui me porte, mais qui ne me rémunère pas, donc être comédienne. Et je me suis dit, ok, t'as les chansons, ça fait longtemps que t'es pas montée sur scène en tant que comédienne. Ma dernière pièce date de 2022. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu pourrais faire qui réunirait tout ce que t'aimes? Tu chantes, bah tu vas jouer aussi, tu vas faire des personnages, tu vas faire du stand-up, tu vas dire qui tu es, tu vas appeler le public à jouer avec toi. Et de là est né À ma place, puisque j'avais toutes les chansons. J'ai construit le texte de théâtre autour pour que ces chansons soient intégrées dans le texte et vice versa, puisque tout l'album Souveraine de Rocky Payette parle de souveraineté, parle d'être à sa place, parle d'aller la chercher, parle de mais qui va m'empêcher d'être moi, à part finalement moi-même. Donc quand je me suis rendu compte que tout l'album était là-dessus, je me suis dit bon, ok, la pièce on la tient. Bon, il a fallu l'écrire, la répéter, etc. Mais au fond, c'est l'épisode suivant de Souveraine. Et ça vient finaliser un projet musical qui finalement se retrouve aussi sur scène, puisque je chante avec mon guitariste. Mmh. Et qu'en même temps, je parle aux gens, je fais des personnages, je joue ma vie, je les interpelle, je les fais se lever, travailler avec moi. Donc on rit, on pleure, voilà. Il y a de l'émotion et c'est une pièce de théâtre, donc c'est complet.
D'habitude, la pause musicale, on la fait au bout de 30 minutes, mais je me dis qu'est-ce que c'est pas l'occasion de pouvoir faire écouter dès à présent la première musique, et peut-être même qu'on peut en proposer plusieurs au cours de cette...
Avec grand plaisir.
Au cours de cette émission. Ça s'appelle Envie. Est-ce que tu veux la décrire?
Quand j'ai commencé, c'est la bio musicale de Rocky Payette, enfin de Didou Mignot qui devient Rocky Payette. Je pense qu'il n'y a que ça à dire. On écoute, tout est très clair quand j'en parle.
Très bien. Eh bien, à tout de suite.
Par où commencer cette histoire qui est la mienne? Qu'est-ce qui vous donnera envie de m'écouter, d'aller plus loin, de ne pas zapper? Je ne suis pas une magicienne, mais je vous promets sans hésiter une absolue sincérité. 2013, je dis adieu à ce job sécurité, ce train-train bien rangé, pour faire un éclat de ma vie, une évidence. Une lame de fond, je me souviens, je reconnecte, je me lance et glisse sans le savoir dans un immense foutoir. J'avais oublié mes peurs et leurs parfums, balayé leur ampleur d'un revers de main. Mes rêves zigzaguent et meurent lentement, doucement. Peu à peu, j'abandonne, mais en creux, la vie, elle sait mieux. Elle ne lâche rien, mais me laisse décider de mon chemin. Je garde à peine la tête hors de l'eau. C'est assez, semble-t-il, juste ce qu'il faut. 30 juin 2022, la fin de mon errance. Ma vie s'étale devant moi, mes choix, mes absences, et soudain tout est clair, c'est enfin l'alignement. Je sais maintenant qui je suis. Toutes ces années m'ont servi. Bien mieux que les succès, ce sont les doutes qui m'ont porté. Oh, j'ai bien encore quelques angoisses. J'ai la peau qui vieillit, le corps qui se froisse, des kilos qui m'agacent. Et mon mental qui prend le relais. N'est-ce pas trop tard, ridicule ou illusoire de vouloir être une star? Mais fuck! Qui m'empêchera d'être moi? Je suis rock. Je suis Payette. Je suis Rocky Payette. J'aime ce qui brille dans les yeux et dans les têtes, dans la vie et sur scène. Je sais aussi que je ne suis l'égérie d'aucune cause. Mais si d'expérience les miennes vous parlent, alors venez, embarquez avec moi. Osons ensemble. Main dans la main, on se soutiendra. Chaque jour verra un pas nous emmener là où on a envie d'aller. J'y crois. Et vous ?
Vous y croyez? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des rendez-vous. Avec nos rêves, avec la vie, avec l'amour, avec le pour, jamais le contre. Avec le rire, la famille et les amis. Avec tout ce qui nous met en vie.
Vous êtes de retour sur Radio Galère sur le 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles avec Didou Mignot, qui est la chanteuse de la musique que nous venons d'entendre en vie, et nous écouterons d'autres de tes chansons de Rocky Payette au cours de cette émission. C'est pas si courant pour nous de pouvoir recevoir les artistes qui produisent les musiques que nous écoutons, donc c'est avec plaisir que nous en mettons dans le cours de cette discussion. On parlait de Rocky Payette, tu nous disais la galère. En fait, j'avais aussi envie de me retourner sur la question de la galère, parce qu'on a une galère juste derrière nous dans
géniale,
le studio. Parce qu'une galère, c'est galérer effectivement de parfois avoir du mal, mais c'est également une manière de cheminer, de prendre le large, de partir à l'aventure, au cap, et parfois de pas savoir ce qu'on va trouver derrière ces caps-là. Et moi qui m'appelle Marin, et ben ça me parle aussi dans cette signification du mot galère. Mais est-ce que c'est pas en galérant qu'on se pose aussi vraiment la question d'être à sa place? Moi, tu vois, parfois je suis un peu surpris par certains de mes amis qui ont un parcours extrêmement bien tracé, belles écoles. Bon salaire, ils se marient vite, ils achètent vite, et moi je me dis oulala, moi j'ai fait les mêmes écoles qu'eux, et puis en fait le chemin il est plus tordu. Mais ça m'interroge parfois de me poser la question, de me dire est-ce qu'ils se sont toujours interrogés sur quel était le sens de leur présence sur Terre, est-ce qu'ils sont à leur place?
Donne-leur encore 10 ans, tu verras bien. La crise de la quarantaine, elle est pas là par hasard, hein. On n'a pas compris pendant des années ce que ça voulait dire, la crise de la quarantaine. Parce que quand on est jeune, on se pose pas toutes ces questions. Moi, j'ai 54 ans. J'ai effectivement pas un parcours classique, celui qu'on aurait pu s'attendre à avoir, surtout quand t'es une femme, se marier, faire des enfants, avoir un chien, une voiture, une grosse maison. Moi, j'ai pas fait tout ça, j'ai pas d'enfants, je me suis pas mariée, je suis avec un amoureux qui est extraordinaire, Jérôme, qui est là dans le studio avec nous, mais ma vie, elle a pas été classique. Est-ce que c'est ce qui m'a porté à être ce que je suis aujourd'hui? Peut-être. Peut-être que l'artiste en moi, c'est mon enfant, c'est celui que je porte plus loin. Peut-être pas, j'en sais rien. Si j'avais des enfants, est-ce que j'aurais le courage de tout lâcher pour faire tout ça? Je n'en sais rien non plus. C'est des questions auxquelles j'ai pas de réponse, donc je ne me les pose pas. Ce qui est sûr, c'est que la galère, si t'es pas capable de t'en sortir, si tu restes galérien toute ta vie, je ne suis pas sûre que tu... Enfin, tu gonfles pas les voiles, hein, quand t'es dans une galère. Tu rames. Donc je ne suis pas sûre que rester très longtemps dans ta galère t'emmène quelque part. Sauf si tu te dis, attends, mais moi j'en ai ras-le-bol de ramer pour rien, je vois même pas la direction, puisque je suis juste avec on le voit bien, hein, le gros tambour qui rythme les rames dans une galère, c'est ça, mais on ne voit jamais l'extérieur. Donc moi non, je suis pas une galérienne. Hein. J'ai embarqué dans plein de bateaux, dans petits, gros, galères, speedboat, ce que tu veux, mais je... J'ai le sentiment profond d'avoir, même inconsciemment, dirigé ma vie là où j'avais envie d'aller. Et c'est évidemment plus fort quand tu sais où tu vas. Est-ce que ça veut dire que tu y vas sans retournement de bateau ou sans vent contraire? Ça, c'est encore autre chose. D'ailleurs, j'ai une chanson qui s'appelle « Vent contraire », mais j'ai appris à aimer les vents contraires. C'est-à-dire que les stops, les feux rouges, les ornières, tout ça, ça t'apprend toujours quelque chose. Mais... est-ce que j'ai cette force de caractère naturelle qui fait que je m'en sors et que je me dis, attends, je vais pas rester dans le désespoir 20 ans, il y a un moment, faut s'en sortir. Je pense que c'est une force de caractère, je sais pas, tu vois, mais je travaille aussi beaucoup sur moi. Ça fait des années que je travaille sur moi et que je me dis, et comme je te dis, là, c'est récent où je me suis dit, ok, janvier 2026, maintenant c'est l'année de l'audace. Parce que si j'y vais pas maintenant à 54 ans, quand c'est que je vais y aller? On parlait la dernière fois, on parlait quand on a préparé l'émission de la place de la femme de 50 ans, cette invisibilité qu'on peut avoir à notre âge, elle est très vraie. Et en même temps, Tu vois, au cinéma, par exemple, si, alors c'est moins fréquent parce que maintenant il y a des grandes plateformes comme Netflix, etc., qui font qu'il y a beaucoup plus de rôles, il y a beaucoup plus de place pour des femmes de mon âge, qu'elles soient belles, qu'elles soient grosses, qu'elles soient moches. Enfin, on s'en fiche maintenant. Il y a beaucoup plus de, on s'en moque un peu plus. Moi, à mon époque, dans les années 80, c'était Catherine Deneuve et Isabelle Adjani. Enfin, la comparaison est tellement énorme. Il y avait pas la télé, c'était les films qui passaient. Il y avait très peu de séries. Donc, nous, moi, j'ai grandi avec un cinéma, des très belles actrices, qui étaient très belles, très minces. Oh, moi, j'étais tout sauf ça. En tout cas, c'est comme ça que moi, je me ressentais. Donc, ça m'a totalement bloquée dans mon envie de devenir artiste. À 54 ans, je suis, j'ai plein de choses qui vont plus, hein. J'ai la peau qui pend, je vieillis, j'ai des rides, j'ai des kilos en trop, mais je me dis, je m'en fous. Et cette invisibilité de la femme de 50 ans, j'ai envie de leur dire, brisons-la. Mm-hmm. Tu vois, demain, je passe de 0 à 100, et demain, Rocky Payette explose, à ma place explose, Didou Mignot explose, et soudainement, une femme de 55 ans qu'on n'attendait pas arrive et peut dire, si moi je l'ai fait, faites-le les gars. Les gars et les filles, hein, j'entends. Je trouve que c'est beaucoup plus fort. C'est mon idée, hein. Attention, je dis pas que c'est vrai, mais j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus fort que de réussir qu'à 20 ans, qu'à 30 ou 40, quelque chose auquel on s'attend, à laquelle on s'attend, pardon, alors qu'à 55 ans, est-ce qu'on s'attend encore à un succès qui fasse waouh? C'est une question.
Du moins, au nous, là, on est clairement sur le nous, et effectivement, quand on a préparé l'émission, tu m'avais parlé de ce sujet-là. Et la question du changement du regard que la société peut porter sur des femmes de plus de 50 ans, puisque tu viens d'aborder le sujet. Moi, c'est quand tu m'as parlé de ça, ça m'avait fait, je te l'avais dit, écho extrêmement fort avec ma propre maman, qui se trouve être exactement dans ce cas-là, et que moi je regarde en tant que son fils, qui parfois me partage ses doutes de fait de dire ah mais non, mais du coup c'est fini, etc. Et moi qui me dis mais c'est pas possible, mais non. Donc c'est sûr que je sais pas, ça m'a donné quand même une certaine regard, décalage de regard pour moi d'entendre ça de quand tu me l'as présenté, et en même temps tu portes aussi un discours de volonté d'exploser, c'est ce que tu viens de dire.
Ah oui,
et de succès, de réussite. Donc j'ai envie que tu puisses aussi nous exprimer ça veut dire quoi, comment tu te le représentes,
le succès.
Et comment est-ce que tu penses qu'ensuite il peut porter quelque chose, s'il y a bien un discours à porter là-dessus.
Moi, je pense que, alors, le succès, c'est très personnel. J'ai vraiment te parler de ma notion de succès. Pour moi, le succès, c'est de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Donc, ça veut dire être libre financièrement, on va pas se leurrer, de décider qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire ça et je peux. Demain, il y a autre chose qui m'intéresse. Oh, écoute, j'y vais. Et la créativité, elle a besoin de temps, elle a besoin d'énergie, elle a besoin de solitude aussi, parfois. Donc, si je commence à me dire sans arrêt, oh là là, comment je vais faire pour gagner ma vie? Très clairement, je ne serai plus du tout dans la créativité et dans cette liberté que j'ai envie d'avoir, que je n'ai pas aujourd'hui, hein. Je ne suis pas dans cette liberté financière au point de pouvoir me dire, allez, pendant un an, je ne fais que ce que j'ai envie. Mais c'est ce que je recherche. Parce que, le succès pour moi, c'est aussi du partage. C'est-à-dire que en étant sur scène et en recevant une salve d'amour, en la donnant et en la recevant, c'est un succès personnel, pas d'ego, hein. Vraiment, c'est pas ah mon Dieu, même je suis génial. C'est vraiment partager quelque chose. On parlait de tendresse hier ou avant-hier quand on a préparé l'émission.
Et on en reparlera.
Et voilà. Et j'ai envie de ça. J'ai envie que on a tellement de choses à partager. Et je pense que le succès pour moi, c'est une étincelle. C'est l'étincelle de pouvoir dire aux autres, mais regardez, j'y suis arrivée. Je suis pas plus spéciale que vous. Sauf que j'ai rien lâché, parce qu'à un moment, je me suis dit, si je lâche, je n'y arriverai plus. Et le succès, il est là. Donc, il est autant financier j'allais dire, amoureux, quelque part. Tu vois, c'est l'amour d'une scène, l'amour d'un public qui te le rend bien. C'est pas spécialement signer des autographes et être connu dans la rue, je m'en fiche totalement. Ça viendra peut-être avec, j'en sais rien, je le prendrai au moment où ça arrive, mais c'est pas cette idée-là du succès. Le succès, il est pour moi de faire ce que je veux quand je veux. Donc, ça veut dire forcément être connue et reconnue à un moment donné pour que l'argent rentre et que je puisse vraiment aller là où j'ai envie d'aller. Parce qu'aujourd'hui, la réalité terrain de quelqu'un qui n'est pas connu, c'est, alors en plus on parlait de galères, c'est des galères au quotidien. C'est avoir l'argent pour trouver le théâtre, avoir l'argent pour payer quand tu enregistres un disque, avoir l'argent pour payer les musiciens, le metteur en scène, sans même penser à toi te rémunérer au début. Tu vois, donc toute la prise de parole, toutes les formations que je fais aujourd'hui servent à financer mon projet artistique. Le jour où quelqu'un me dit « c'est formidable ce que tu fais, viens, on y va, j'ai l'argent, j'ai les contacts, et puis on sait qu'il y a un public qui est fait pour Rocky Payette et à ma place », ça va m'ouvrir une dimension que je n'ai pas aujourd'hui. Et c'est vers ça que je tends. Quand c'est que ça arrivera, je ne sais pas.
Et que tu essayes à Marseille, parce qu'on parlait aussi du fait qu'à un moment, qu'il y aurait pu y avoir Paris avec une scène plus large.
Oui. Mais le débat reste le même. C'est, les théâtres, il y a beaucoup de locations. Donc si tu veux, si t'as pas les reins un minimum solide, alors parfois c'est ce qu'on a fait. On appelle on fait du 50-50. Le théâtre prend 50% des billets et l'artiste ou la compagnie 50% du reste, mais pas tout le temps. Il y a souvent de la location. Moi, à l'heure actuelle, je suis en location. Alors, avec un deal très avantageux, parce que le théâtre Le Phare à Marseille, ils sont extraordinaires et ils m'accompagnent, mais il n'en reste pas moins que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, surtout dans l'artistique. Et si tu veux exister, oui, il va falloir mettre des pépettes sur la table. Donc, ce succès financier va me permettre aussi pouvoir de travailler plus large, d'être plus large et d'apporter cette étincelle plus largement à d'autres personnes qui en ont peut-être besoin, qui ont juste peut-être besoin d'entendre « she did it », oh, pourquoi pas moi.
Tu parlais de connu et reconnu. Moi, il y a quelque chose là en ce moment sur lequel je médite beaucoup, c'est la question de la résonance. Mmh. Le fait d'émettre de l'énergie ou de dire quelque chose et d'en avoir un écho. Et finalement, que l'énergie aussi se nourrit de l'écho qui nous est rendu. Et que quand on n'a pas d'écho par rapport à ce qu'on produit, bah, c'est complètement essoufflant. Et ensuite, ça peut... Pour celles et ceux peut-être qui comprennent pas tout à fait un peu ce processus-là, considéré comme de l'ego, mais de dire en fait je donne, mais j'ai pas d'écho, bah en fait ça finit par être essoufflant. Et donc effectivement, dans ce que tu me partageais, tu disais qu'il y avait vraiment pour toi cette volonté de pouvoir créer de l'étincelle sur le moteur de vie, en partageant ce qui était propre, mais finalement c'est une résonance que tu crées avec le public en faisant ça. C'est-à-dire je partage pour moi, mais j'espère qu'en fait ça va résonner, et que vous-même, en retour, vous allez vous mettre en mouvement, d'une certaine manière.
Oui, en prise de parole, on dit toujours que le personnel appelle l'universel, alors que le fameux « on fait ci, on fait ça » appelle le générique. Le générique ne touche personne. En revanche, le particulier... Si je te dis, tu vois, quand je t'ai parlé, par exemple, de mon âge et de l'invisibilité des femmes de 50 ans, ça a résonné chez toi parce que t'as pensé à ta maman. Mmh. Si j'avais dit oui, quand on a 50 ans, etc., je suis pas sûre que ça t'ait touché de la même façon. Mais c'est parce que je t'ai raconté un bout de mon histoire que ça a résonné chez toi, puisque tu parles de résonance. Et c'est ça, mon parcours, il est pas mieux, ni pire, ni rien qu'un autre. Et puis la première fois que j'ai écrit pour mon seul en scène précédent, je me disais, oh là là, mais qui va écouter mes petits bobos? Mais en fait, c'est pas mes bobos qui sont intéressants, c'est la résonance que ça a chez l'autre. Et chez l'autre, ça va résonner avec ses propres bobos. Et c'est ça qui va faire que waouh. Et tu vois, la première, elle a eu lieu samedi, et j'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient été très touchées. J'ai même des hommes qui sont venus me dire, mais on a pleuré de bout en bout. Et alors, je m'attendais à ce que ce soit très féminin comme spectacle, être à sa place. Mais finalement, non, tout le monde est touché parce que tout le monde, à un moment, se pose la question, c'est quoi ma place? Est-ce que j'y suis? Et surtout, comment je la garde? Quand les galères arrivent, comment je la garde? Comment je garde cette envie, cette étincelle, cette passion? Et puis, il y a un moment, je l'ai plus. Ben, c'est pas grave. Je sais que ma place, elle est ailleurs. Mais faut pouvoir accepter tout ça. C'est pas évident. C'est un travail d'une vie. Donc, la résonance, oui, c'est un travail d'une vie. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Le personnel amène à l'universel. C'est un message universel. Trouver sa place.
Parce que justement, comment ça se passe dans le spectacle? Alors moi, je vais venir soit le 24, soit le 25, il faut que je prenne ma place.
Avec grand plaisir, ça part vite, tu sais, il faut que tu l'apprennes vite.
Oui, il faut que je l'apprenne vite, oui.
Il y en a qui m'ont appelé le jour du spectacle, me disant « aïe, 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 je voulais prendre ma place », j'ai dit « ah les gars, je peux plus rien faire pour vous ».
Il n'y a plus de place pour vous, moi je suis à la mienne, mais pas vous.
revenez à la prochaine fois.
Revenez à la prochaine, on donnera évidemment les informations pratiques à nouveau en fin d'émission, mais là peut-être que c'est justement le moment de dire les deux prochaines dates, elles sont 24-25
au Théâtre Le Phare, juste à côté de Préfecture. Vous pouvez pas le louper si le théâtre est quasi invisible. Il est je ne sais plus l'adresse, je te la retrouverai. Il est boulevard Salvator et je ne sais plus si c'est au 19 ou au 79. Enfin, il s'appelle Le Phare, on ne peut pas le louper. Il est entre préfecture et le cours Lyoto sur la grande montée, tu sais.
Bah, c'est pas très loin de chez moi, donc j'ai aucune bonne raison
de ne pas venir.
De pas venir. alors attends, je voulais continuer sur une prochaine question. Toi, tu es à ta place, mais le public, c'est quoi sa place ?
Quand il vient me voir ?
Oui.
Oh bah alors là, quelle bonne question. Bah lui, il est dans un fauteuil en velours bleu marine, très très confortable. Mm-hmm. Donc
ça c'est très physique. Là,
c'est très physique. Franchement, je peux pas répondre pour eux. C'est compliqué. Il y en a qui vont venir juste pour passer un bon moment et qui vont être épatés parce qu'ils s'attendaient pas du tout à vivre ce qu'ils vivent. Il y en a qui se sont dit ah oui d'accord, elle va parler de ça. Je voudrais voir comment ça résonne, mais c'est très personnel, je sais pas. Je sais pas comment le public va prendre les choses. Je sais pas si lui va se sentir à sa place ou pas. Très sincèrement, on a eu des jeunes. On a eu, je dis on parce qu'il y a le guitariste et moi. Il y avait trois jeunes femmes qui étaient là pour la première. Je pense qu'il y en a une qui devait avoir 14-15 ans qui ne s'est pas sentie très concernée. Mais c'est normal, elle a pas le même chemin de vie, tu vois. Et puis sa sœur qui devait avoir 3-4 ans de plus, elle s'est sentie concernée. Va savoir. Je peux pas répondre à cette question. Ça serait vaniteux de ma part de savoir s'ils sont à leur place ou pas, j'en sais rien. Il y a qu'eux qui peuvent te répondre.
D'une certaine manière, tu respectes leur souveraineté.
Ah bah oui, qui suis-je pour ne pas le faire ? Moi, j'aimerais pas qu'on vienne m'embêter sur la mienne, donc je respecte totalement celle de l'autre.
Et je pense que tu sais pourquoi je te pose cette question. Parce que je vous propose d'écouter la deuxième musique.
Ah oui ! J'ai failli le dire, puis je me suis dit, si c'est pas ça, je vais faire un plat.
Mais non, bah, au pire, on aurait rattrapé le bide. On vous propose d'écouter la deuxième musique de Ricky Paillette, qui s'appelle donc Souveraine.
Souveraine, c'est le titre de l'album.
Voilà, c'est moi qui étais à deux doigts de faire un plat. À tout de suite.
Ne me donne pas ton avis, je ne t'ai rien demandé. J'entends ce que tu dis, mais laisse-moi décider. Tu crois que tu penses savoir ce qui est bon pour moi. Mon matin n'est pas ton soir, tes conseils j'en veux pas. Mon cœur, de le recouvrir de la cendre de tes peurs. T'es yaka, tes faucons, garde tes injonctions. Et si ça ne te plaît pas, regarde bien. Quand les vents se lèvent et m'emportent au loin.
trop con.
Vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles et nous sommes toujours avec Didou Mignot sur la question d'être à sa place, un spectacle mais aussi une question philosophique, psychologique, fondamentale. Du moins au nous, nous avons questionné qui tu étais, quel était ton parcours, le rapport à la réussite, ce que tu avais aussi envie de pouvoir transmettre, que ça soit sur le rapport au succès, le rapport au collectif, à la résonance avec ton public, et aussi sur le fait d'être une femme de plus de 50 ans et de dire bah, « bien sûr, si c'est possible, on peut y aller et je vais pas lâcher » pour reprendre un peu ton expression. Et maintenant, j'aimerais que nous allions du nous au tout, la place dans ce grand monde. Je sais que c'est un exercice, quand on l'a fait à la radio, qui t'a fait un peu bondir, de dire « oulala, mais c'est pas grave, je te propose qu'on le fasse quand même.
Bien
et
sûr.
Puis au pire, ça fera un plat.
Un deuxième.
Et donc, nous allons changer d'air. Didou, nous ne sommes plus en 2026. Hop, tu peux fermer les yeux, c'est terminé. Nous sommes en 2036. Et en 2036, j'aimerais que tu aies une approche un peu schizophrénique de la question. Nous avons deux visions de 2036. La première vision de 2036, c'est une vision de 2036 où les gens ne sont pas à leur place. Et je pense que... un peu comme en 2026. Tu vois.
Oui, j'allais te dire, on a déjà une bonne approche.
Voilà,
hein,
en 2026, sauf que bah, Donald Trump est resté en place, et puis il y a eu plein d'autres choses super, etc. Bref, j'aimerais que tu puisses un peu visualiser ce que ça peut être en 2026.
C'est pas compliqué.
Avec 10 ans de plus, où les gens sont pas à leur place, et donc que tu nous traces un avenir qui ne soit pas fondamentalement très souhaitable, et que tu le fasses en parallèle avec un autre avenir qui est celui de 2036 où au contraire chacun et chacune a trouvé sa juste place avec soi-même dans sa résonance profonde avec les autres et donc nécessairement avec la société. En tout cas nous quand on porte une vision écologique à ce point-là, nous sommes convaincus que c'est l'élévation du champ de conscience et donc aussi de son impact sur soi, sur les autres et sur le monde qui fait qu'on peut avoir une approche plus harmonieuse. C'est pour ça que je suis si curieux par le nom de ce spectacle. Et donc maintenant que je t'ai proposé de réfléchir un peu pendant que je faisais un long monologue pour pouvoir te laisser le temps de réfléchir, j'aimerais que tu puisses nous présenter comme une sorte de duel, cette confrontation entre ces deux futurs.
Il était une fois deux futurs. 2036, le monde qui va pas bien, versus le monde qui va bien. Ah, bah voilà, c'est fait. Non, alors bah, 2036, le monde qui va pas... Mais c'est ce que je te disais quand on a préparé l'interview. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on touche le fond avec tout ce qui se passe dans le monde. Et puis, ah, ça y est, on a touché le fond, on va pouvoir remonter. Ah ben non, on n'a toujours pas touché le fond. Bon, je pense que la vision du monde à feu et à sang, elle n'est pas galvaudée. Je ne pense pas en 2036 si on continue comme ça. Je pense que les gens ne vont pas bien en 2036. Pourquoi ? Parce qu'ils manquent d'amour d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris qu'on était un tout, une unité, et pas des bouts séparés. Et en 2036, dans la version qui ne va pas bien, tout le monde est en bouts séparés. Il n'y a pas de lien qui nous lie, il n'y a rien qui nous relie. Et c'est chacun pour soi, mais de façon exponentielle par rapport à maintenant. Les réseaux sociaux ont explosé, on n'est même plus nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends la parole... et que tu es physiquement reconnaissable, tu ne sors pas de chez toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Donc, tous les masques qu'il y a actuellement, tous les filtres que tu trouves sur les réseaux sociaux, sont devenus la norme. Tu ne ressembles plus à toi-même. Tu n'es plus qu'un fantôme dans une ville, dans un pays, dans un monde, dans une nature qui est morte, qui n'est plus rien. Tu penses que tu vas peut-être aller sur Mars. En espérant que la vie est meilleure. Et c'est là où tu te trompes, parce que l'herbe, elle n'est jamais verte de l'autre côté. Donc Mars, c'est pas non plus la planète pour toi. Moi, je pense que si on continue comme ça, 2036 ne va... Je ne suis même pas sûre que la Terre existe encore. C'est là où je me félicite de ne pas avoir eu d'enfant.
Ok, bon, d'une certaine manière, je suis assez d'accord avec cette vision. Et sur la question de la reliance, c'est aussi pour ça qu'on utilise l'image de la forêt. C'est d'essayer de porter sur le plan culturel en fait une image simple qui permette de parler de questions complexes et notamment les rapports des liens. Et si on parle du moi, le nous et le tout, c'est justement toutes ces interconnexions qui se jouent à plein d'échelles. Il y a même là, si jamais on dézoome et on donne une approche un peu plus intellectuelle de la question, ça s'appelle la théorie des systèmes imbriqués, que finalement bah, nos cellules elles sont imbriquées dans notre corps, qui est imbriqué dans notre être, qui est imbriqué dans une communauté, qui est imbriqué dans un système politique, qui est imbriqué dans une civilisation, qui est imbriqué sur Terre, qui est imbriqué dans le système solaire, etc., etc., etc. Et que l'essentiel est que bah, ces systèmes, les uns avec les autres, ne viennent pas contrecarrer les règles des autres systèmes. Sinon, à un moment, il y a un souci. Typiquement, le fait de surexploiter les ressources planétaires, c'est super pour la croissance, donc dans le système socio-économique, c'est super, mais dans le système Terre, ça marche plus. Mais cette surexploitation, elle crée aussi bah, des ravages corporels, avec des cancers qui explosent, avec des burn-out et des gens qui se sentent malheureux du fait d'être exposés les uns avec les autres. C'est pas très joyeux.
Non, c'est pas joyeux.
Mais je te propose qu'on change. Enfin, sauf si tu voulais le commenter une dernière fois.
Non, parce que c'est pas du tout... je pense que tu auras compris que c'est pas du tout dans cette galère que j'ai mis les pieds. J'entends galère le bateau, hein. Moi, je vois plutôt un navire de croisière, mais pas croisière plan-plan, hein. Quoique, ça peut être sympa de regarder tous les paysages que nous croisons. Mais non, moi, mon bateau, il va vers un horizon lumineux. On a parlé de tendresse, moi, quand tu m'as dit 2036.
Alors, mettons 2036 qui est celui auquel tu aspires.
Oui, 2036 auquel j'aspire, moi, c'est... Il y a de la tendresse, il y a quelque chose de vrai et de sincère. Il y a quelque chose de... Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la tendresse tout de suite quand tu m'as parlé de 2036, dans mon monde rêvé. Parce que je pense que c'est bien les contrastes. Hein. S'il n'y a pas de contraste, tu ne peux te faire aucun avis de ce que tu aimes. Tu sais, tous les films où tout est beau, tout est chouette, les gens sont heureux, etc. Il y a toujours un grain de sable qui vient s'en mêler parce que ce n'est pas possible de n'être qu'heureux. Je pense que c'est parce que tu es malheureux que tu peux te dire, tiens, ça me plaît pas, j'ai envie d'aller ailleurs. En revanche, la tendresse, tu peux la vivre quand tu vas pas bien. Tu peux la vivre quand tu vas bien. C'est des choses qui te portent positivement. C'est pas des choses qui vont t'emmener à te faire des youhou, mais la tendresse d'un sourire, la tendresse d'un ami, la tendresse d'une caresse, la tendresse d'un enfant qui vient se blottir dans tes bras. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus pour te consoler. Quand ça va bien, mais c'est génial, ça se transforme en un amour, t'as envie de faire plein de trucs. Quand ça va pas, bah, tu sers juste cette tendresse dans tes bras et ça t'aide déjà à aller mieux. Et je trouve que si on arrive à s'adapter, à avoir plus de tendresse pour les défauts des autres, pour quelque chose qui va pas, pour un automobiliste qui te fait une queue de poisson et puis tu le regardes avec tendresse en disant c'est pas bien grave.
Je suis frappé par un piéton la semaine dernière, je l'ai regardé avec tendresse.
Ah bah tu vois.
Ceci est une vraie histoire.
Tu vois comme quoi la tendresse, j'ai dû le savoir, t'as dû vibrer la tendresse quand je t'ai parlé.
Avant on en a parlé. Bon, bref, je te raconterai une autre fois.
Ouais. Non mais tu vois, bien sûr que humainement on a envie de réagir et de faire ouais machin, ton reptilien, ton cerveau reptilien, c'est le premier à se mettre en place et on reste des animaux, mais la tendresse, comme la tendresse bordel, comme ce fameux titre de film que seuls les vieux comprendront. Ben voilà, je trouve c'est pas le gros sentiment. C'est pas le sentiment débordant, mais pour moi, c'est le sentiment juste qui fait que, y a rien de fade. Il y a rien d'extraordinairement peut-être vibrant, mais il y a rien de fade. Et je crois que quand on a de la tendresse dans notre vie, quoi qu'on fasse, quelle que soit la personne qu'on a en face de nous, ça change tout. Déjà, ça apaise tes cellules, ça apaise ton corps, puis ça va apaiser aussi, tu vois, tout ce champ des possibles, cette forêt des possibles que tu nommes, tu vois, ces racines. Si t'as des racines de tendresse, c'est quand même vachement plus sympa.
Il y a une question qui me vient très fortement à l'esprit. Tout à l'heure, on a parlé des femmes de plus de 50 ans. On pourrait aussi parler des hommes de plus de 50 ans.
Oui.
Sur le rapport, et puis pas que de plus de 50 ans. Hein. Sur le rapport à la tendresse, c'est pas forcément quelque chose qu'on nous a appris à l'école.
C'est clair.
En tout cas, pendant un certain temps, je pense qu'il y a un vrai travail de reconsidération du rapport au genre et du rapport à ses émotions, sa sensibilité. Malgré tout, il y a, moi je vais parler en bon jeu, hein, toujours une sorte de frottement en fait entre la découverte de la tendresse, de la vulnérabilité et d'un certain côté les attentes qui peuvent être placées, ce que tu as reçu de ton éducation, la manière dont tu le gardes, les moments où des choses que tu n'arrives pas à déconstruire alors même que tu essaies de travailler dessus, un certain nombre d'injonctions, la société qui part en sucette, le fait de se dire il faut se protéger. Comment tu vois tout ça?
Moi, je pense que c'est pas facile d'être un être humain. C'est un challenge, mais c'est génial. Parce que t'as pas besoin de te battre au quotidien. Si t'es en phase avec toi-même, il y a des choses que tu peux accepter, puis d'autres, tu te dis, oh, j'aime pas, je change. Être un homme au quotidien, je pense que c'est aussi compliqué qu'être une femme. Parce que, comme tu disais, moi, je viens de l'époque où on me disait, attention, hein, je te préviens, t'es un garçon, tu pleures pas. Tu grandis comme ça, bah, t'es un peu... On en a parlé, hein, t'es un peu coupé de tes émotions. Moi, j'ai un papa que j'adore, hein, mais je lui ai forcé à me dire « je t'aime ». Un jour, j'y suis allée, je l'ai pris dans mes bras, je dis « je te préviens, je te lâcherai pas tant que tu me diras pas « je t'aime ». Il s'est débattu, il a bien senti que j'allais pas lâcher l'affaire, et il m'a dit « je t'aime ». Mais j'y vais régulièrement. Je lui dis « papa ?» Oui, je le prends dans les oreilles, je dis, oh, je t'aime mon papa. Et puis il me répond pas, je dis, je te préviens, je te lâche pas tant que tu m'as pas dit je t'aime. Donc il fait, ah, gna gna, il hurle, et puis tu sens un grand sourire, une tendresse infinie qui remonte, mais je le force.
C'est peut-être pas, incapable de faire
tu vois.
Ça.
Mais tu peut-être vois,
ça,
parce
ça
que.
Trop de pudeur.
Ouais. Mais ma sœur sera incapable de faire ça. Ma sœur serait incapable de faire ça. Elle est d'une pudeur, pareil, extraordinaire. Moi, non. Moi je dis je t'aime, je dis je t'aime facilement, et parfois même à des gens que je connais pas beaucoup, mais c'est parce que juste à ce moment-là mon âme a envie de dire je t'aime, je le dis. Je suis d'une sincérité, enfin voilà, moi je peux pas faire semblant. Donc quand j'aime les gens, je leur dis, je les serre dans mes bras. Ah ben je peux choquer du monde, hein, parce que les gens ne sont pas habitués. Mais écoute, tu sais quoi, j'ai jamais été rejetée parce que je disais je t'aime à quelqu'un. Donc allons-y.
C'est une exploration du rapport à la sensibilité. Est-ce que toi qui invite les gens à prendre la parole en public, finalement, c'est aussi une manière de les inviter à, plutôt que de monter sur scène et porter un masque, au contraire, l'ôter, et notamment au quotidien?
Oh bah oui, de toute manière, si t'es pas sincère, ça marchera pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton inconscient va te se poser des questions. Si demain t'es pas marin en face de moi et que je vois quelqu'un, je me dis, attends, il y a un truc qui va pas. Et puisque c'est mon métier, je vais savoir ce qui va pas. Je vais pouvoir te le dire. J'ai développé un instinct qui va. Je vais pouvoir te dire, t'es pas sincère avec moi parce que ça. Puis tu vas faire. Oh, mais comment tu sais? Je sais pas comment je sais, mais je sais. En revanche, si tu es face à des gens qui ne savent pas tout ça et tu n'es pas toi-même, les gens, le cerveau des gens en face vont bloquer et le cerveau va chercher. Et plus personne ne va t'écouter parce que tout le monde va chercher ce qui va pas chez toi. Donc oui, on préférera toujours quelqu'un de sincère, on préférera toujours quelqu'un qui fait... parce qu'on a de l'empathie en face et on va dire « oh, c'était tellement mignon ». On va aller chercher la sincérité, on va aller chercher quelque chose de ce rapport qui fait qu'on a envie, on a besoin de sincérité. Je ne sais pas si tu te souviens du discours d'Obama quand il y a eu l'ouragan Katrina.
Alors non, mais tu m'en as parlé il y a deux jours. Donc
ah ben
bah
tu vois,
oui.
Bah, voilà. Et ben bah, c'est un des rares présidents. Bah oui, puisqu'on a parlé après de Hollande. C'est un des présidents qui a été capable d'avoir de l'émotion et d'avoir une larme qui coule parce que il était face à des gens qui avaient tout perdu. Ce degré de sensibilité, ce degré de sincérité, moi je trouve ça extraordinaire. C'est être humain. Et pour moi, ça change tout. Tu sais, un comédien, on dit oh, arrête de faire ta comédienne quand la personne elle en fait des tonnes. Mais c'est tellement pas ça être un comédien. Un comédien, c'est être la sincérité la plus totale. C'est être capable d'embarquer dans les chaussures d'un personnage pour devenir ce personnage sans se perdre à l'intérieur de ce personnage. On reste nous-mêmes. Mais t'es capable de l'incarner au point où tu es quelqu'un de différent quand tu joues. Un mauvais comédien, c'est quelqu'un qui reste lui-même dans un personnage. Et là, pareil, le cerveau, il écoute et il fait « Attends, il y a un truc qui ne va pas. » Donc, je ne pourrais jamais prêcher autre chose que la sincérité, quoi qu'on fasse. Et ce n'est pas facile. Hein.
Est-ce que c'est ton dernier mot ?
Mon dernier mot, ouais, la sincérité. Et puis l'humour, amusons-nous ! Oh, sinon on rigole pas, c'est chiant, non?
Quand est-ce que tu passes au Marseille Comedy Club?
Mais c'est pas mon truc, c'est
ah
pas
ouais
moi. Non, je suis pas humoriste. Alors attention, hein. Respect à tous ces gars et toutes ces femmes qui montent sur scène, qui ont un texte incroyable et qui sont capables de te faire rire, mais c'est pas moi. Moi j'aime bien le drame.
Ok. Bon, ça a été à 20 minutes de chez moi, donc j'aurais vraiment aucune excuse de pas être là.
Non, mais tu viendras de toute manière la semaine prochaine, qui c'est pas plus loin a priori de chez toi. Non, mais moi, c'est pas l'art que j'ai envie de mettre en avant, mais ceux qui le font de façon formidable, pour moi, c'est des comédiens en puissance, ouais.
Et alors, est-ce que tu peux nous rappeler, parce qu'en plus, on a fait une petite vérification. De l'adresse où on peut venir te retrouver les 24 et 25 avril prochains pour la pièce de À ma place.
Alors ça s'appelle le théâtre Le Phare, c'est à 20h et c'est au 17 boulevard Louis Salvator dans le 6e arrondissement de Marseille.
Et bah on espère que celles et ceux qui nous écoutent seront là nombreuses et nombreux et puis aussi pour profiter de tes musiques, de tes prestations musicales. Et je propose que nous puissions encore en écouter une pour clôturer cette émission.
Eh bien, écoute, je te propose d'écouter Première fois. Alors, c'est la seule. Moi, dans l'album, j'ai voulu écrire des chansons en disant aimons-nous. Aimons-nous vivants, comme disait ce grand philosophe. Valéry François, c'est ça? François Valéry. Et tout l'album est sur s'aimer, parce que quand on peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Et Première fois, c'est une chanson dédiée au public. C'est une chanson d'amour dédiée au public, parce que ben, si je suis sur scène et qu'il n'y a pas de public, je suis pas sur scène, ou alors je suis sur scène toute seule et ça ne sert à rien. Donc mon public, c'est mon histoire d'amour, c'est mon histoire de tendresse, c'est mon histoire de sincérité, et c'est une chanson qui leur est dédiée.
Merci beaucoup, avant de lancer la musique, Didou Mignot, qu'on pourra donc retrouver sur scène. Merci Elissa d'avoir été en régie, d'avoir pu rendre cette émission possible. Et puis on vous laisse pour une dernière belle écoute et on vous dit à très bientôt sur les ondes de la Forêt des Possibles.